question du thème soumis, on peut clairement parler de, et adéquatement parler de revanchisme de la part de la Russie avec, mais seulement avec l'annexion de la Crimée et ce qui s'en est suivi dans sa politique ukrainienne. Si on peut parler de revanchisme, j'y ajouterai, qui se manifeste clairement avec cet événement-là, j'y ajouterai immédiatement deux caveats. D'une part, c'est que s'il a fallu attendre 23 ans après la fin de l'URSS pour que ça se produise, c'est que ce revanchisme n'était pas inéluctable. Deuxième caveat, c'est que... il est très clair maintenant qu'on n'a pas envisagé longtemps à l'avance les événements à Moscou qui se sont passés en Ukraine. Pour comprendre le sens de ce qui vient de se passer avec ce revanchisme russe, je soumets schématiquement trois grands facteurs d'explication en affirmant immédiatement qu'aucun de ces trois grands facteurs d'explication est à lui seul le plus suffisant pour expliquer la tournure récente de la politique de la Russie. Je dirais par ordre d'importance, ces trois grands facteurs sont premièrement l'ordre international imposé par Washington en Europe à la fin de la guerre froide, qu'on peut appeler la Pax Americana, tout simplement. Deuxièmement, le redressement économique et géopolitique de la Russie qui a tardé à venir, mais qui a commencé à se faire sentir avec l'administration, la première présidence de Poutine en 2000 et 2001. Et troisièmement, je dirais que c'est l'effet cumulatif encore une fois, c'est en ordre d'importance ici. Le troisième facteur, c'est l'effet cumulatif de ce qu'on peut appeler les violations par Washington des règles du jeu que les États-Unis ont voulu imposer dans l'ordre international post-guerre froide et que la Russie a d'ailleurs respecté grosso modo bon gré mal gré pendant une vingtaine d'années. J'en mentionnerai seulement un, c'est-à-dire la règle du jeu qu'on voulait faire prévaloir était la non-remise en cause des frontières des États issus de la disparition de l'URSS et de l'effondrement de la Yougoslavie. Or, je mentionnerai seulement un cas de violation des règles par les États-Unis. Ça a été le démembrement de la Serbie à la suite de la reconnaissance du Kosovo qui s'est passé dans les années 1990. Je reviens donc au premier facteur. J'en énumérerai peut-être d'autres ici, je reviens maintenant au premier facteur que je mentionne comme le plus important, en soulignant que c'est très clairement maintenant, en rétrospective, les phases successives de l'élargissement de l'OTAN et ces phases successives, mais dès le premier élargissement de l'OTAN, qui a été le facteur, je dirais, constant d'une dégradation avec des hauts et des bas des rapports entre les États-Unis et la Russie, entrecoupés de phases de coopération très importantes entre les États-Unis et la Russie sur des dossiers très importants, ce qui m'amène à dire effectivement que la tournure revanchiste n'était pas absolument inéluctable. Rappelons les termes du premier élargissement de l'OTAN qui s'engage dès 1994, il y avait un consensus total de toutes les forces politiques en Russie pour s'opposer et qui s'opposait ouvertement à l'élargissement de l'OTAN pour des raisons différentes, non seulement les communistes, non seulement les nationalistes, mais même ceux qu'on appelait les occidentalistes radicaux, les pères de la thérapie de choc, Gaidar et Bourboulis, s'y sont opposés en faisant valoir que, pour la raison fondamentale pour eux, ce n'était pas la menace militaire à laquelle ils ne croyaient pas, mais c'est que l'élargissement de l'OTAN tenait la Russie à l'écart de ce qui allait devenir la principale organisation de sécurité collective en Europe, alors que dans leur perspective à eux, ce n'était pas Reagan et les politiques américaines qui avaient mis fin au communisme en Russie, c'était eux, et non sans raison, qui avaient effectivement amené la chute du régime communiste et qui avaient même accepté et endossé le démembrement de l'URSS précisément dans leur perspective pour pouvoir, en utilisant leurs propres termes, faire en sorte que la Russie rejoignent les rangs du monde civilisé. C'était les termes et la façon dont ils entrevoyaient les relations avec le monde euro-atlantique à l'époque. C'est la raison pour laquelle Gaidard lui-même a dit que l'élargissement de l'OTAN dès 1994, c'était un coup de poignard dans le dos de la nouvelle Russie qui avait fait tous les efforts pour s'intégrer dans un ordre international où elle aurait sa place. Et il a dit, ça peut apparaître prophétique après coup, que ça allait discréditer toute leur politique à l'intérieur de la Russie et amener une montée de toutes les forces d'opposition. Ça apparaît prophétique, encore une fois, en rétrospective, mais rien, en fait, n'était inscrit dans ce sens-là. Puisque, comme je l'ai mentionné, ça a été entrecoupé de plusieurs phases de collaboration entre les États-Unis et la Russie. La politique qui, grosso modo, a été poursuivie par la Russie pendant toute cette période de temps. En gros, c'est celle préconisée par Primakov, le ministre des Affaires étrangères, dès 1996-97, à savoir, c'était prématuré, évidemment, mais le développement et le renforcement de la multipolarité dans le monde, dont on parle là-dessus, c'était un objectif à long terme, qui a amené le partenariat stratégique avec la Chine, la création de l'organisation de Shanghai, renforcement des liens avec l'Inde, ça mène ensuite jusqu'au BRICS, au G20, etc. Bref, le pari de la Russie, de Primakov et de la Russie, longtemps par la suite, j'y vais effectivement très rapidement, c'était dans le cadre du renforcement de la multipolarité. Chacun des organismes que je viens de mentionner, officiellement, ce n'était pas dirigé contre l'hégémonie américaine. Donc, on peut parler d'un rééquilibrage en douceur de l'ordre international et d'un réaménagement de la Pax Americana. Ils n'ont pas, on considère qu'il n'était pas possible d'y mettre fin très brutalement. Donc, c'était une politique de réaménagement de l'ordre international en douceur, du soft balancing, comme on disait, qui était l'objectif poursuivi par la Russie pendant cette période. Qu'est-ce qui a mis fin et amené le revanchisme de la Russie? Il y a un signe avant-coureur, si je vais s'en dire. Et j'insiste là-dessus et je donne sur cet événement. Le sommet de l'OTAN de Bucarest d'avril 2008. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce... On savait à l'avance, avant que le sommet ait lieu, que George W. Bush allait demander le Membership Action Plan pour l'OTAN, à l'OTAN, pour la Géorgie et l'Ukraine. On savait aussi à l'avance que la France et l'Angleterre, pas l'Angleterre, la France et l'Allemagne, allaient s'y opposer pour justement ne pas heurter les susceptibilités de la Russie. Apparemment, la France et l'Allemagne avaient compris mieux que les Américains, que George Bush, que l'OTAN commençait à être dans une situation de ce que j'appelle « d'overcommitment » en Europe. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, parce que George Bush, malgré les objections, a perdu, bien sûr, sur la question du Membership Action Plan, parce que la France et l'Allemagne avaient, à toute fin pratique, un droit de veto, mais il a réussi à arracher une déclaration commune de l'OTAN à l'effet que la Géorgie et l'Ukraine, un jour, sans préciser de date, deviendraient membres de l'OTAN. Alors là, ça a eu un effet précipitateur sur les événements. Saakashvili, les Russes, il a aidé la Russie par l'aventurisme dont il a fait preuve. Il était pressé par la fin du mandat de Bush qui s'annonçait. Bush avait été son meilleur allié en attaquant l'Ossétie, en tentant de reprendre par la force l'Ossétie du Sud, en escomptant non pas un secours militaire immédiat, mais le déclenchement par les États-Unis et l'OTAN d'une crise internationale majeure pour forcer un règlement des conflits gelés en Ukraine. En Géorgie. Ça, malheureusement, échoué. Là, ça a été un révélateur, encore une fois, extraordinaire, de l'overcommitment de l'OTAN, un pays à qui on venait de promettre l'appartenance à l'OTAN. On n'a pu rien faire, sinon des réunions d'urgence, menaces de sanctions qui n'ont même jamais été exécutées. les États-Unis auraient pu comprendre à ce moment-là que les rapports de force avaient changé en Europe, puisqu'on n'a pu rien faire finalement pour venir au... Et c'était le premier au secours de la Géorgie, c'était la première violation à caractère revanchiste, si vous voulez, du tabou de la non-remise en cause des frontières de l'issue de la dissolution de l'URSS et par la Russie. Effectivement, on a reconnu à la suite de ça l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, encore une fois, là, révisionnisme et revanchisme caractérisés. Et on va assister de nouveau à ça en Ukraine maintenant, cette année. Et là encore, on pourrait citer des cas de violation des règles du jeu. En promettant en 2008 l'appartenance à l'OTAN pour l'Ukraine, on savait très très bien à l'époque que la majorité de la population en Ukraine était opposée à l'élargissement de l'OTAN, justement pour ne pas dégrader les relations avec la Russie. Ceux qui la voulaient, les vainqueurs de la Révolution orange, demandaient bien sûr l'élargissement de l'OTAN, mais ils ont refusé à plusieurs reprises de faire un référendum en sachant qu'ils perdraient. Et le but déclaré de l'OTAN était de renforcer la démocratie. De son expansion vers. Voilà, encore une fois, comment les choses ont bien tourné dans une certaine mesure pour la Russie, puisque les dirigeants de la Révolution orange ont été battus dans une élection suivante par Yanukovych, dont vous avez entendu parler, lors d'une élection, et c'est fort significatif, qui a été reconnue par l'Europe les observateurs européens comme une élection légitime et relativement correcte. Là aussi, il y a eu une inconscience, si vous voulez, de la situation lorsque les États-Unis ont soutenu ce qui a été, à toute fin pratique, un renversement insurrectionnel du régime en place en Ukraine. Et c'est ce qui a précipité, effectivement, comme vous le savez, l'annexion de la Crimée. Ce que je voudrais dire, encore une fois, c'est que ce qui vient de se passer et ce qui se passe actuellement en Ukraine a montré, je voudrais dire, la désuétude de l'OTAN et de l'extension de l'OTAN. On le voit de façon très nette. Les nouveaux dirigeants ukrainiens demandent l'adhésion à l'OTAN. L'OTAN reste derrière. Même les États-Unis n'osent pas envoyer, malgré des pressions en ce sens, où il s'agit d'envoyer des armements importants au gouvernement ukrainien. On se précipite pour faire des gestes de solidarité avec la Lituanie, les pays baltes, etc., pour les calmer, alors que ce n'est pas eux qui sont menacés. On ne peut absolument rien faire pour l'Ukraine, sinon des sanctions qu'on a vues et qui sont pour l'instant demeurées sans effet. La désuétude de l'OTAN et aussi de l'expansion de l'OTAN, on le voit très bien aussi, écoutez, pour montrer qu'on n'abandonne pas la poursuite d'élargissement de l'OTAN, on vient de prendre le Monténégro à l'OTAN, ce qui est absolument dérisoire comme mesure de représailles et comme signal envoyé à la Russie. Ceci dit, j'ai pas le temps effectivement de poursuivre tout ce que je voudrais raconter ici, mais ce que je voudrais dire, c'est que la crise ukrainienne actuellement pourrait être l'occasion d'un aggiornamento dans les rapports, dans l'établissement d'un nouveau système de sécurité collective en Europe, qui ne mettrait pas fin à l'OTAN, mais qui mettrait pour le moins fin à son élargissement. Je pense que les conditions pourraient être mûres pour ça, même si c'est très difficile d'y arriver. Il y a peu de chances, effectivement, c'est très, très difficile que ça se réalise, mais on en discute même à Kiev maintenant, que si, pour sortir de l'impasse actuelle, les accords de Minsk qui ont été, conclus, avec l'appui, malgré les hésitations initiales des États-Unis, avec l'appui la France et l'Allemagne, encore une fois, sont des accords effectivement très avantageux pour la Russie. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont été très très longs avant de s'y résoudre. Mais apparemment, on est en train de pousser à l'exécution des accords de Minsk. Et le scénario le plus optimiste, mais qui a peu de chances d'arriver, c'est cet aggiornamento qui pourrait amener, par exemple, C'est même évoqué à Kiev en ce moment dans la presse ukrainienne que, peut-être pas une renonciation formelle, mais dans les faits d'un élargissement de l'OTAN pourrait être accompagné de concessions de la Russie, des concessions largement cosmétiques peut-être, c'est-à-dire d'une, offrir une souveraineté partagée, inégalement partagée sur la Crimée, etc., qui permettrait une négociation. C'est toujours ce qui a été recherché par la Russie au cours des dernières années à travers la recherche de la multipolarité, c'était des négociations et des ajustements constants avec les États-Unis, non pas pour mettre fin de façon rapide et brutale à l'hégémonie américaine, mais pour amener des limites au comportement unilatéral des États-Unis sur la scène internationale. Je m'arrête là-dessus.
Merci beaucoup.